Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin, journée spéciale sur Bretagne 5.
En ce jour de commémoration des 80 ans de l'appel du 18 juin, nous allons parler maintenant d'un rôle important, celui de la radio dans ce conflit qui était aussi une bataille des ondes. Et pour ce faire, nous sommes au téléphone avec Yves Pourcher. Vous êtes historien, anthropologue, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Et vous nous avez fait l'amitié d'être avec nous pour évoquer cette période. Je rappelle que vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages autour de l'occupation, notamment Pierre Laval, vu par sa fille en 2002, Moi, José Laval en 2015 et Vichy, Théâtre d'ombre, plus récemment en 2019 et tout à fait récemment Le Radiotraître, Jean-Hérold Paqui, La voix de la collaboration, paru chez Alma Éditeur. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Yves Pourcher, cette histoire des messages qui vont arriver sur les ondes très vite finalement durant cette période d'occupation, eh bien c'est aussi l'entrée de la radio en guerre. Alors ce 18 juin 1940, mais un petit peu avant finalement, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'appel du général de Gaulle, mais il y a eu aussi la veille le message du maréchal Pétain sur les ondes de la radio française.
Oui, alors on peut commencer l'histoire à ce moment-là, mais il faut penser à toutes les guerres qui ont précédé. Je pense à la guerre d'Espagne, où la radio a pris vraiment toute son ampleur, et puis la guerre en Pologne, etc. Là, on parle de la guerre franco-allemande, ou avec les Anglais impliqués. Donc, et à partir de là, il y a la défaite française, qui est une catastrophe. Une stupeur pour la plupart des gens qui la vivent. Et vous avez deux messages, on a retenu en tout cas deux messages qui sont très importants. Le message du maréchal Pétain, donc au 17 juin, qui annonce qu'il faut cesser les combats. Il annonce l'acceptation et la demande d'armistice. Et le message qui suit d'un autre militaire, beaucoup peu connu, qui est le général de Gaulle, qui lance son message le 18 juin. Alors, la différence, c'est qu'on connaissait Pétain. La voix de Pétain est une voix attendue, une voix de gravité, de solennité. La voix de Gaulle, qui dit un autre message, est une voix inconnue. Mais finalement, on a un équilibre, c'est-à-dire l'histoire va garder les deux messages. Et celui qui va triompher, gagner, c'est le message du général de Gaulle, parce qu'il porte l'espoir que la France continue à vivre, à exister, et que, ma foi, il le dit très bien, elle a perdu une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Voilà, c'est ce qui est très important. Mais on a cette opposition, ce qui fait que la guerre est devenue une affaire de radio. Elle est rentrée dans les postes parce que le désordre est tel à ce moment-là. La seule chose qui reste, c'est la communication par les radios.
La radio fonctionne encore, et elle fonctionne bien, elle est écoutée à l'époque. Les gens entendent le message du maréchal Pétain. Est-ce qu'ils entendent finalement le message du général de Gaulle à Londres?
Alors là, il faut revenir sur les choses. L'écoute a été très difficile, parce qu'il faut imaginer l'espèce de chaos qui existait en France. Les armées françaises, en se retirant, ont détruit les émetteurs. Ce qui fait que la radio qui existe à ce moment-là est une radio à moitié détruite, totalement perturbée. Voilà. Donc l'émission de ces messages a été complexe. Il a fallu réaménager des studios, notamment pour le maréchal Pétain, et ensuite chercher à diffuser. Le message de Pétain a été relativement entendu, au moins sur le territoire hexagonal, je ne parle pas des colonies. Le message de Gaulle a été aussi entendu beaucoup plus difficilement, c'est-à-dire que finalement beaucoup ne l'ont pas entendu, mais il a été répercuté, reproduit, peut-être par le bouche à oreille. Certains l'avaient entendu et ont dit, à un moment donné, un autre homme a parlé et nous a dit autre chose. Mais sur les niveaux d'écoute, c'est-à-dire la comptabilité, c'est-à-dire comparer combien de gens avaient entendu Pétain, combien de gens ont entendu De Gaulle, on ne sait pas grand-chose en vérité. Voilà, c'est ça. Et puis, le message de Pétain, par la suite, a été reproduit, c'est-à-dire il y a eu plusieurs niveaux d'écoute qui se sont superposés. c'est un peu la même chose de Gaulle, c'est-à-dire on se souvient de son message parce qu'il a été ensuite rediffusé, c'est-à-dire on a gardé en tête ce message qui, sur le moment, avait dû être écouté par très peu de gens en vérité.
Et puis ce sont deux personnalités, hein, vous le soulignez en commençant Yves Pourchet. Le général de Gaulle, on ne le connaît pas, alors que Pétain, c'est quand même un héros de la guerre 14-18.
Tout à fait, et on a ce paradoxe, c'est que de Gaulle, le général de Gaulle, pour beaucoup de gens, pendant toute l'occupation, ne restera qu'une voix. C'est-à-dire, on ne connaît pas son physique.
On est
obligé d'imaginer ce qu'il est.
On le surnommera d'ailleurs le général Micro, hein, à Paris.
Exactement, c'est un général qui n'a pas de corps. Voilà. Alors, ce qui caractérisera de Gaulle par la suite, c'est cet immense corps, cette espèce d'air de majesté qu'il a acquis au fur et à mesure des événements. Alors que la figure de Pétain, c'est depuis la guerre de 14, est une figure sainte de la République en vérité. Tout le monde le connaît. Il a voyagé, il a occupé des responsabilités, il a été ambassadeur en Espagne. Et donc tout le monde connaît Pétain. Et l'a entendu aussi antérieurement, il a été ministre de toute façon sous la Troisième République, ce qui fait que la voix de Pétain est une voix attendue, c'est-à-dire on la retrouve, on la partage aussi d'une certaine façon.
Alors il faut imaginer, vous le soulignez également Yves Pourchet, le chaos du moment, l'armée française en déroute, déjà l'exode hein, sur les routes, Paris est ville ouverte, dans ce chaos deux hommes parlent sur les ondes, écoutez ou peu écouter, l'histoire n'a pas pu finalement le trancher, on n'avait pas d'indice d'écoute à cette époque. Le général de Gaulle est parti à Londres, Pétain reste une forme de rempart, qu'est-ce qui se passe en France à ce moment-là? Quelle est la situation politique?
Bah, la situation politique, c'est une espèce d'effondrement et d'abattement. D'abord, les gens ont vécu un événement qui était considéré comme impossible, c'est-à-dire cette défaite subite de la France. On avait toujours en mémoire ce qui s'était passé pendant la guerre de 14-18, c'est-à-dire on attendait une bataille de la Marne, finalement, un redressement des armées françaises. Et là, il y a l'effondrement total, c'est-à-dire les armées allemandes qui arrivent sur tout le territoire, qui rentrent dans Paris, c'est-à-dire la prise de Paris est une vraie catastrophe, et donc le futur est impossible, on ne comprend plus ce qui se passe. Et l'idée de peur, d'angoisse, d'incertitude, fait qu'on s'accroche à Pétain, voilà, et en même temps... Puisqu'il y a eu cet effondrement, on cherche des responsables, on cherche à comprendre exactement ce qui s'est passé. Et la radio va être une espèce d'amplificateur de cette quête, de ce besoin aussi de continuer à vivre par-delà le choc politique et essayer de reconstruire ou de garder quelque chose. C'est ce qui explique aussi l'enthousiasme des foules au moment des voyages de Pétain, par exemple, ce qui se passe. Et puis pourquoi les messages de Pétain sont aussi importants quand ils sont diffusés.
Alors, il faut savoir aussi, Yves Pourchet, vous allez pouvoir nous le confirmer, que la radio est très vite mise sous tutelle par les Allemands. Ça devient un outil de guerre.
Ah oui, non, mais de toute façon, les Allemands ont tout le pouvoir. Ils ont tout le pouvoir parce que d'abord, ils vont remettre en marche des radios. D'abord, ils savent faire. Ils savent faire parce qu'ils ont fait ça précédemment. Ils l'ont fait en Tchécoslovaquie, ils l'ont fait en Pologne. Ils ont... sur leur propre territoire, c'est-à-dire Hitler et les nazis ont construit leur pouvoir sur la radio. Il faut bien... Goebbels, qui était le ministre de la propagande, avait construit un instrument extrêmement efficace qui était cette radio nationale-socialiste. Donc ils savaient l'importance de la radio. Ils avaient équipé les franquistes en Espagne avec du matériel allemand. Et donc ils vont faire en France exactement ce qu'ils ont fait ailleurs. C'est-à-dire ils remettent en marche des radios, ils rééquipent, ils choisissent des gens. Donc, par exemple, l'équipe de Radio Stuttgart vient à Paris, s'installe dans les bureaux et dans les studios, et elle a beaucoup d'argent, puisque ils prélèvent sur les fonds d'occupation et à ce moment-là, ils recrutent des équipes et vont donner l'importance à ces radios qui sont des radios collabos. Voilà, Radio Paris est une radio collabo.
Alors, on a retenu l'histoire, Radio Paris, mais il y avait également des radios en zone libre, en tout cas tant que la zone libre a existé, qui étaient rattachées à Vichy.
Voilà, alors il y avait la Radio Nationale qui était à Vichy, mais qui très vite n'a pas eu le succès qu'a pu avoir ou l'influence de Radio Paris, parce qu'elle avait moins de moyens techniques, et puis parce que Paris reste Paris. Voilà, c'est à un moment donné, si vous faites chanter Maurice Chevalier, Tino Rossi, alors évidemment les gens, à un moment donné, même dans le malheur, ont besoin de distraction, de voix, quelque chose qui les rassure. Et donc le succès de Radio Paris par rapport à la Radio Nationale sera beaucoup plus considérable. Mais il existait aussi des radios en province. Vous voyez, il y a cette espèce de paradoxe, moi qui m'a toujours stupéfié. Pierre Laval possédait une radio, il possédait Radio Lyon. Il avait déjà investi avant la guerre sur l'importance de la radio. Puis vous aviez Radio Toulouse, vous aviez d'autres radios à peu près, mais qui n'avaient pas l'influence de Radio Paris à ce moment-là.
Et puis, vous parliez des installations techniques de Radio Paris. L'émetteur de Radio Paris avait été inauguré quelques semaines avant la guerre, l'émetteur d'Alouis, émetteur de grande puissance à l'époque et qui a été reçu sur tout le territoire. Les Allemands l'avaient bien compris.
Oui, oui. Alors, le paradoxe, le commandant du Vivier, qui est le responsable de la radio à ce moment-là, le dira. Parce qu'à un moment donné, certains auditeurs, mais la situation change, parce que la résistance va faire exploser certains émetteurs, elle va les plastiquer. Mais à un moment donné, certains auditeurs disaient, mais comment se fait-il, sur le territoire hexagonal, on entend plus facilement Radio Londres que nos radios nationales. Mais le commandant du Vivier disait, effectivement, les Anglais avaient aussi misé sur l'influence de la radio. Ils avaient très bien compris, la BBC était devenue une arme de guerre. Donc ils avaient amplifié les émetteurs et l'écoute était souvent plus performante. Vous voyez, il y a une espèce de paradoxe. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire de la radio pendant 4 ans est une histoire qui change. À un moment donné, évidemment, les bombardements s'attaqueront aussi aux émetteurs de radio parce qu'ils comprennent le danger de la radio en période d'occupation.
Voilà, il faut détruire cette arme de la parole, finalement. Et Yves Pourchet, il faut aussi noter que la radio était brouillée depuis l'émetteur d'Alouis. On brouillait évidemment Londres. Et malgré tout, les Anglais arrivaient à trouver des subterfuges pour passer au-dessus du brouillage.
Oui, alors c'est une lutte technique, c'est-à-dire c'est une lutte de voix, d'arguments, de nouvelles. Mais c'est aussi une lutte technique, c'est-à-dire que chacun essaie en vérité d'empêcher l'écoute de l'autre. C'est le paradoxe de la situation. Donc les Allemands brouillent, ils menacent, d'ailleurs les autorités de Vichy vont au-delà, c'est-à-dire que ceux qui ont interdit l'écoute, ce que les Allemands avaient fait chez eux, on essaie d'interdire et on menace et on arrête des gens. Des gens sont dénoncés parce qu'ils écoutent la radio. C'est-à-dire, c'est un fait, l'écoute devient un crime, un crime politique, et vous risquez, à un moment donné, si vous êtes dénoncé, d'être déporté, etc. Donc c'est très dangereux du point de vue de la pratique et de la vie, en général.
Alors Yves Pourchet, vous évoquiez à l'instant les voix, ces voix si importantes. Alors, il y avait les voix de la BBC, puis il y avait les voix de Radio Paris. Alors, on ne pourrait pas citer, évidemment, tous les noms. On va en retenir quelques-uns. Quelles sont-elles, ces voix ?
Du côté de... Alors, prenons Radio Londres. Vous aviez, évidemment, des voix qu'on a gardées en tête. Je ne parle pas de cet influenceur considérable qu'a été Pierre Dac, un humoriste, mais vous aviez, alors ça c'était du point de vue, je veux dire, des amuseurs, comment on avait besoin d'amuseurs à la radio, hein. C'est-à-dire que finalement pour transformer les slogans politiques, il fallait trouver des gens qui savaient écrire, qui savaient chanter, qui savaient composer. Mais vous aviez des gens comme Jean Oberlé, comme Jacques Duchesne, du côté de Radio Londres, Crémeux-Briat, Pierre Bourdan, voilà, c'était les grandes voix de Radio Londres. Du côté de Radio Paris. Radio Paris, les Allemands avaient cherché à trouver des voix. Il y a des gens qui se sont hissés. comme celui sur lequel j'ai écrit, c'est-à-dire Jean-Hérol Paqui, qui est devenu une espèce de vedette collabo de la radio. Et puis, vous avez une voix, la voix majeure de la collaboration, ça a été bien sûr la voix de Philippe Henriot, qui était un élu, lui, c'était un homme politique, c'est-à-dire il accède au micro, il découvre le micro, et il acquiert à travers le micro une influence absolument considérable. C'est-à-dire, non seulement il va parler à la radio, mais il va faire des tournées de propagande en France. C'est-à-dire, il va amplifier son message. Et Philippe Henriot parle à la Radio Nationale, c'est-à-dire à Radio Vichy, il en deviendra même le ministre de l'Information, mais il parle aussi à Radio Paris, et ses éditoriaux sont diffusés à plusieurs reprises dans la journée aux différentes radios de la collaboration.
Vous avez parlé tout à l'heure d'influenceurs, alors mot à la mode aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut dire que les speakers de la radio de Londres et des éditorialistes de Radio Paris étaient des influenceurs dans l'opinion publique ?
Alors ça, c'est très difficile. C'est-à-dire, d'abord, on peut s'interroger sur le niveau de leur influence. C'est-à-dire, est-ce que les gens croyaient ce qu'ils entendaient ? Voilà. Est-ce qu'ils... Alors, il faut imaginer que les gens sont perdus. Voilà. Ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim, ils sont perdus, on ne voit plus l'avenir, on ne sait pas qui va gagner la guerre, en vérité, à un moment donné. C'est-à-dire que, il semble que les armées, au début de la guerre, il semble que les armées allemandes sont des armées victorieuses partout, elles gagnent. Elles ont attaqué en Russie, elles sont aux portes de Moscou. Donc la situation est absolument désespérante. Donc il faut trouver des arguments pour encore continuer à croire. Et puis, de l'autre côté, au fur et à mesure des retournements, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc les gens cherchent, échangent les nouvelles, suivent aussi sur des cartes, on peut imaginer les opérations du front. Et ces radios, Radio Londres et Radio Paris, pour ne retenir que ces deux, disent des choses à la fois sur les opérations militaires, c'est-à-dire les combats, elles annoncent reproduisent des faits, et puis elles diffusent des attaques, des menaces, voilà, qui sont, et puis des messages politiques. Évidemment, les choses se confondent. Et chacun écoute, on peut imaginer d'ailleurs un auditeur, c'est ce qui devait se passer, qui tourne le bouton de son poste de radio, parce que il veut comprendre. Il écoute Radio Londres, mais ensuite, peut-être, va-t-il écouter Radio Paris, peut-être va-t-il même écouter Philippe Henriot, à un certain moment. Donc on a cette espèce de paradoxe de la situation. Mais les choses vont devenir de plus en plus, évidemment, au bout d'un moment, on attend la défaite allemande, on attend le débarquement avec impatience, ce débarquement qui n'arrive finalement pas. Les bombardements se multiplient et les seules nouvelles que l'on peut espérer, ce sont des nouvelles de radio, voilà.
Alors Yves Pourchet, la radio devient offensive, elle devient aussi la radio de la propagande. Radio Paris a toujours été, en tout cas, montrée comme telle, une radio de propagande à la solde des Allemands. On parlait des voix tout à l'heure, vous venez de consacrer, je le disais en commençant, un ouvrage à Jean-Hérol Paqui, La voix de la collaboration, le radio traître, c'est le titre de votre ouvrage. Les gens ne connaissaient pas, évidemment, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, Internet, les gens ne connaissaient pas, mais est-ce que justement Jean-Hérol Paqui sera un des personnages clés de Radio Paris? On a beaucoup parlé de Philippe Henriot, mais Jean-Hérol Paqui était un peu moins connu.
C'est-à-dire que Hérol Paqui va aller encore plus loin qu'Henriot, et lui fait sa carrière et il trouve son succès uniquement par la radio. Voilà, c'est la radio qui fait qu'il existe. Il a acquis ses armes radiophoniques pendant la guerre d'Espagne, puisqu'il s'était mis au service des franquistes, et il agissait sur Radio Saragosse. Donc il est devenu un professionnel de la radio. Voilà, c'est un journaliste qui a découvert le micro et l'influence du micro. Et là, on a un mystère très, très important, c'est-à-dire que les radios cherchaient ce qu'on appelait des speakers, c'est-à-dire des gens qui parlent avec des voix particulières. Et Paqui a su faire cette espèce d'amalgame entre des arguments et la façon de les dire, de les raconter. Voilà, c'était des conteurs en Rio, comme Paki, mais comme les gens de Radio Londres. Donc ce qui caractérise ces personnages, c'est leur voix et la façon dont ils ont eu, enfin, ce qu'ils ont su faire à la radio, s'imposer d'une certaine manière à travers des tons, des gravités, des sonorités, des images, mais aussi des violences verbales qui sont aussi très, très, très importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'influence, on écoute, voilà. Mmh. On ne voit pas, on écoute. Et c'est la voix qui trouve toute son ampleur et aussi son importance.
Alors l'importance de la voix Yves Pourchet et pour Jean-Hérold Paki, vous le dites, hein, il acquiert ses lettres de noblesse à la radio, mais on sait finalement peu de choses de ce personnage qui était particulièrement singulier.
Oui, alors la seule chose qu'on a retenu, c'est le slogan qu'il lançait, et qui terminait à la fois ses critiques militaires et ses éditoriaux. Il terminait toujours, il disait « L'Angleterre comme Carthage sera détruite ». Voilà, l'Angleterre, et c'était devenu sa marque de fabrique, ce qui fait que dès qu'on entendait ça, on savait que c'était Hérold Paki qui parlait. Et c'est un homme qui trouve dans la violence verbale, c'est-à-dire ce qu'il souhaite, c'est la guerre civile, enfin, il souhaite le sang, on l'entend, il y a une espèce d'excitation, et donc il fait de la surenchère verbale. C'est une espèce de délire verbal. Aujourd'hui, quand on l'écoute, on se demande d'ailleurs pourquoi il a eu tant de succès. Mm-hmm. Mais il faut toujours situer la voix dans le moment, c'est-à-dire dans les faits, dans la tragédie qui était celle de la France à cette époque-là.
Vous le dites dans votre ouvrage, Yves Pourchet, il était aussi très approximatif, Jean-Hérold Paki, dans ses éditoriaux parfois.
Mais il était... Alors, il avait deux spécialités qui étaient à la fois l'éditorial, c'est-à-dire la ligne politique... Donc, où il se situait toujours dans la surenchère, c'est-à-dire Vichy, c'était pas suffisant pour lui. Il fallait s'aligner totalement du côté allemand. Voilà. Il n'hésitera pas d'ailleurs, du point de vue formel, à s'engager dans les SS, voilà, ce qu'il annoncera. Et ensuite, il faisait des critiques militaires, il recueillait essentiellement ses informations du côté allemand. Il annonçait sans cesse des stratégies, des victoires allemandes. Donc l'important, c'était d'assommer les autres, c'est-à-dire de le faire douter. Il disait, mais le débarquement n'arrive pas, vous voyez bien, ils sont incapables. Et puis, les bombardements, ce sont des assassins, ils viennent vous tuer. Mmh. Donc cette répétition pouvait générer le doute. Mais en vérité, Paki existait en quelque sorte... parce qu'il se trompait toujours, voilà, c'est-à-dire les gens, on peut imaginer ça, c'est-à-dire il l'écoutait, peut-être pas pour en rire, mais pour savoir qu'il était dans le faux et dans l'erreur. Et évidemment, tout ce qu'il disait, on le remettait en cause.
Alors justement, la BBC le remettant en cause par la voix de Pierre Dac, dont vous parliez tout à l'heure, Yves Pourchet, Pierre Dac le considère, par qui, lui, comme un amuseur, finalement.
Oui, c'est-à-dire, Dac ira très loin, il dira c'est un guignol. Voilà. Nous avons à faire un guignol. Et moi, j'aime bien les guignols. C'était ce que racontait Dac. Entre amuseurs, nous nous retrouvons. Voilà. Et Dac va faire la séparation. Alors, il est de façon très, très fine et très maligne. Il dit le danger, c'est Henriot. Mmh. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la résistance va abattre Henriot, va le tuer. Tandis que Paki, bon, on a bien cherché, mais on le considère de façon quand même minable en vérité. Mais un guignol, voilà, c'était ce qu'il était, mais un mauvais guignol. Le paradoxe dans cette situation, c'est que ces gens se connaissent, ils s'écoutent entre eux. C'est-à-dire, les gens de Radio Londres écoutent ceux de Radio Paris, et ceux de Radio Paris, et ils se répondent, voilà. Et chacun, à travers des jeux de mots, des formules, des musiques, etc. Quand Radio Londres dit Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, ils ont trouvé la formule. Mmh. Ils ont trouvé la formule parce que tout le monde va pouvoir la répéter et que l'idée de mensonge s'est inscrite dans les imaginaires et dans les esprits.
Cette guerre des radios va perdurer évidemment jusqu'à la fin du conflit, jusqu'au débarquement. Le débarquement a lieu, Radio Paris continue finalement.
Mais Radio Paris va continuer. Et puis tous ces gens, alors ça c'est très, très intéressant, c'est-à-dire que quand les Allemands fuient, quittent Paris, ils embarquent tous ces hommes. Mmh. Et ils partent dans les wagons allemands et Errol Paquy va servir une nouvelle radio, Doriot, qui est l'homme du le fasciste français, l'homme du PPF, crée sa radio au bord du lac de Constance, et c'est à Radio Patrie qui devient et qui essaie de jouer Radio Londres à l'envers, en vérité, en disant ben nous sommes les véritables résistants. On n'a pas beaucoup je n'ai pas trouvé d'enregistrements, alors qu'on a des enregistrements des émissions de Errol Paquy pendant l'occupation. Sur Radio Patrie, c'est-à-dire pendant la période allemande, il n'y a rien. Et puis il y a une radio, qui est la radio de notre personnage Jean Luchaire, qui s'est installée à Sigmaringen. Mmh. Vous avez une radio qui s'appelle Ici la France, qui émet aussi, mais qui est très mal écoutée, parce qu'évidemment, le chaos s'est déplacé sur l'Allemagne. Mmh. Et l'Allemagne est tellement bombardée que les émetteurs ont du mal à fonctionner à ce moment-là.
Le combat est perdu pour ces hommes de la collaboration. Alors, que vont-ils devenir? Alors, vous citiez Henriot tout à l'heure, qui fut abattu, évidemment. Que va devenir Jean-Hérold Paquy, par exemple?
Jean-Hérold Paquy cherche à fuir. Voilà, donc il s'inue sur cette espèce de champ de destruction qu'est l'Allemagne. Il essaie de passer en Suisse. Les Suisses le livrent à la France. Et il y a un procès qui est organisé. Et il est condamné à mort et exécuté le 11 octobre 1945. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai retrouvé, ce sont tous les interrogatoires, parce qu'il va être interrogé à la fois par les renseignements généraux et puis par le juge d'instruction. Donc on a... Et à ce moment-là, Errol Paquy parle, il raconte un peu sa trajectoire, sa vie, mais jamais on a un sentiment de regret, c'est-à-dire de... Donc il dit, ben bon, moi j'ai été logique avec moi-même, j'étais un fasciste, j'ai choisi le camp allemand et je suis resté fidèle au camp allemand, voilà. Donc il va tomber sous les balles du peloton d'exécution le 11 octobre 1945. Et on a un moment très singulier, qui est un moment très important, enfin, du point de vue, que Pierre Dac racontera. Pierre Dac est à Paris au moment du procès d'Errol Paquy. Et il se dit, mais je veux voir celui que j'ai démoli pendant toutes ces années, que j'ai attaqué. Il se rend dans l'enceinte du procès, il voit Errol Paquy. Et ce qui l'écœure complètement, c'est pas la présence de Paquy, de cet homme, c'est l'ambiance. C'est-à-dire l'ambiance du procès, qui est un procès mondain, où les gens ont afflué en quelque sorte. On sait, tout le monde sait que Paquy va être condamné à mort, mais ces gens sont venus chercher un espèce de spectacle, c'est-à-dire comme si la radio devait continuer du point de vue de ce qu'elle est à certains moments, c'est-à-dire une espèce de fête, de démonstration, de savoir-faire. Et Dac sort complètement écœuré de cette situation et de ce qu'il a vu au moment de ce procès.
Voilà, la boucle est bouclée, on pourrait presque le dire comme ça, de façon un petit peu triviale, Yves Pourchet. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a eu un avant juin 1940, avec notre point de départ, l'appel du général de Gaulle, et un après cette guerre des radios, après ce conflit, est-ce qu'on peut dire que la radio n'était plus la même non plus, on ne faisait plus passer les messages de la même façon, de la même manière? Est-ce que la radio, finalement, est passée d'arme de guerre à arme d'influence et d'importance?
Pour nous, enfin, pour la situation française, il faut imaginer par exemple ce qu'a pu représenter la radio du côté du bloc communiste, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que l'instrument de propagande va perdurer, puisque les Américains vont faire ce que finalement les Allemands avaient fait, c'est-à-dire essayer d'organiser des radios de propagande. Et on peut imaginer du côté du bloc des pays de l'Est, certains écoutant la radio, la radio Free America, pour essayer de savoir un peu ce qui se passait. Du point de vue français et du point de vue européen, libre, du côté du monde libre, les choses sont un peu différentes. C'est-à-dire les radios évoluent, la télévision est pas loin, elle était déjà formée à ce moment-là, dans l'entre-deux-guerres. Donc quelque chose disparaît. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la radio a pris cette importance à cause des événements. C'est la guerre qui a donné et qui a amplifié cette influence. Et c'était aussi parce que on était dans une espèce d'angoisse et de vide total. On ne savait pas. Les journaux étaient tous, la presse écrite était une presse qui était soumise, contrôlée, censurée. Et donc la liberté, en tout cas l'espoir, se situait du côté de certaines voix, notamment je pense aux voix de Radio Londres, qui disaient que la France pouvait exister, que rien n'était perdu, qu'il fallait continuer le combat, voilà. Et c'était cet espoir formidable qu'a permis la radio à ce moment-là.
Et la radio a aussi évolué en technologie. La guerre a apporté beaucoup d'améliorations techniques. On parlait du brouillage tout à l'heure, il fallait passer au-dessus aussi.
Bien sûr. Alors évidemment, on n'a pas parlé de tout ce que constituait le radio-reportage. C'est-à-dire, et pas qui l'a fait à un moment donné, mais d'autres vont le faire. C'est-à-dire aller sur les lieux pour donner à voir par les oreilles, par l'écoute, ce qui se passait. Le micro est un micro qui se transforme, qui évolue. Et aussi la captation des moments, des voix, des déclarations, c'est quelque chose de... Et c'est pour ça que des métiers de radio se sont formés, des professionnels de la radio se sont formés. Et donc la radio change sans cesse pendant cette période.
Alors la radio, elle avait l'habitude aussi de recevoir des artistes, beaucoup passeront à Radio Paris, on leur le reprochera d'ailleurs après le conflit mondial, mais elle va aussi jouer un rôle d'apaisement, en tout cas par le spectacle, parce que on écoute Radio Paris pendant l'occupation aussi pour avoir un peu de distraction, un peu de musique légère.
Bien sûr, parce que une partie des artistes, enfin des chanteurs, ont voulu continuer à faire leur métier. Voilà, ça, ils ont Maurice Chevalier, Tino Rossi, même Edith Piaf, vous les écoutez. Donc les gens avaient besoin. Je veux dire, même dans les périodes les plus terribles, c'est comme une maladie, en vérité. Vous ne pouvez pas toujours écouter des bulletins médicaux ou des bulletins de guerre. Vous avez envie d'écouter la musique, des distractions et surtout de reconnaître des voix que vous avez connues antérieurement. C'est-à-dire, voilà, si vous retrouvez la voix de Maurice Chevalier, vous êtes heureux parce que vous avez l'impression que l'ancien temps est revenu, en vérité. Voilà, que le printemps est là, que l'amour est possible, enfin, continuer à vivre. Et c'est pour ça que ces voix ont été importantes. Radio Paris avait des moyens, et donc pouvait réunir des orchestres. Voilà, il y avait des orchestres, pouvait diffuser des émissions du théâtre. Et donc les artistes sont arrivés aussi, ils sont venus à ce moment-là.
Voilà, la radio de guerre, la radio de distraction, la radio des voix, la radio des affrontements aussi. On aurait pu aussi parler de la radio de service avec les messages personnels de la résistance.
Tout à fait, c'était très important parce que du point de vue de Radio Londres, c'était une façon de coder. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, la radio peut être aussi l'importance des messages qui existe, et donc elle était écoutée aussi parce qu'on savait qu'il fallait lever les codes, lever le mystère, qu'il y avait quelque chose qui était dit, mais qu'il fallait interpréter. C'est pour ça que les gens commentaient ou attendaient la radio. Elle était devenue une espèce de mystère qu'il fallait fouiller pour arriver à connaître et approcher la vérité. Et donc la radio a permis aussi de circuler et de dire des choses. C'est une arme de combat du point de vue des deux côtés, et on le sait bien. Et puis ça peut être aussi une arme de menace, on le sait bien. Radio Paris le faisait, c'est-à-dire la menacer de mort et de destruction, mais Radio Londres le faisait aussi de son côté en disant attention, attention à ce que vous faites. Parce qu'un jour ou l'autre, les choses vont basculer et vous aurez à payer pour ce que vous avez fait. Et donc la radio préparait le retournement et ce qui était possible.
Alors pour terminer, Yves Pourchet, et pour terminer avec cette voie de la collaboration, Jean-Hérold Packy, il s'attendait de toute façon au débarquement et on aurait dit qu'il était là, qu'il attendait la mort. En tout cas, c'est ce qui ressort dans votre ouvrage.
On a l'impression que c'est des gens qui trépignent dans le sang, voilà. Leur vie, leur bonheur C'est la guerre. Et une guerre particulière qui est la guerre civile. Voilà. Comme s'il avait découvert ça pendant la guerre civile espagnole. Et ce sont des gens qui veulent l'affrontement. Et l'affrontement avec le voisin, avec les frères, avec les communistes. Voilà. Mmh. C'est cette idée et c'est cette espèce de trépignement incessant qui est celui de Jean-Hérold Bacchi et de quelques autres pour cet affrontement final, c'est-à-dire la guerre finale où on va pouvoir régler enfin nos comptes et de façon totale. Voilà. Mmh. Et c'est là, la voix de Bacchi est une voix de haine sans cesse et qui ne trouve son ampleur et sa signification que dans le sang qui est annoncé et qui va couler.
Presque à la manière d'une tragédie grecque, ça nous ramène à Carthage.
Oui, c'est exactement ça. On a l'impression que le slogan n'était pas complètement idiot, c'est-à-dire il annonce toujours la destruction. Pour lui, c'est ça, son imaginaire. Et il trouve même que les Allemands ne vont pas assez loin dans l'affrontement, mais ils sont quelques-uns du côté français à être comme ça, c'est-à-dire aller plus loin encore dans le nettoyage et dans la guerre, dans la nature de cette guerre. Et ils savent très bien, à un moment donné, cette espèce de lucidité qui peut complètement nous étonner, ils savent très bien ce qu'ils risquent, c'est-à-dire quand Bacchi part de lui, il se voit pendu, il dit « je serai pendu, nous allons mourir ». Mais en attendant, nous allons régler nos comptes.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter, Yves Pourchet. Je rappelle que vous êtes historien anthropologue, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Toulouse et que vous avez écrit cet ouvrage « Le radiotraître, Jean-Hérold Bacchi, la voix de la collaboration » paru chez Alma Éditeur et je le recommande chaudement à tous auditeurs, amis auditeurs de Bretagne 5. Ça se lit comme un roman. Vous allez apprendre plein de choses sur cette période et sur la radio de l'époque. Et sur ce personnage singulier de la collaboration qui était Jean-Hérold Bacchi. Merci infiniment Yves Pourchet d'avoir été avec nous en cette journée du 18 juin, cette journée de commémoration des 80 ans de l'appel du 18 juin pour parler de l'autre radio, de la radio de la collaboration et aussi de la radio d'après. Merci infiniment.
Merci à vous.
Journée spéciale sur Bretagne 5. Il y a 80 ans, l'appel du 18 juin.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.